Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. Puis ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui c'est l'épisode 178 que j'ai intitulé « L'argent et le couple, des solutions simples, pour réduire les tensions ». Avant de me lancer, j'aimerais te rappeler, comme à chaque fois, que tu peux envoyer tes questions à question@graines-du-6-2-du-6-coeur.fr, donc question@graines-de-coeur.fr avec les tirets du 6 entre les mots, et j'y répondrai dans un épisode spécial ou lors d'un prochain épisode. Donc voilà, je t'invite que ce soit par rapport au thème du jour, que ce soit par rapport au couple en général, ton couple, s'il y a des petites choses qui te questionnent, des petites choses sur lesquelles tu aimerais avoir des réponses ou mon point de vue, n'hésite pas à me contacter pour ça. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé d'argent, et je suis pas sûr que j'en parle assez d'ailleurs. Donc cette semaine, on va en parler, on va revenir sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et je vais te parler notamment de ce que partage un monsieur qui s'appelle Rami Chetty, qui est un Américain, qui doit probablement être d'origine indienne, mais qui, voilà, qui passe sur les podcasts aux États-Unis, qui écrit en anglais, etc., qui vend ses livres là-bas. Donc il est auteur, il est coach en finance personnelle notamment. Et quelque chose que je ne savais pas, il accompagne aussi des couples et il a des choses très intéressantes à partager sur les couples. Moi, je l'ai découvert il y a longtemps, peut-être il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé un peu mon chemin sur les finances personnelles. Voilà, après avoir découvert le développement personnel, maintenant il y a une quinzaine d'années, quasiment 15 ans, je suis passé par une étape où voilà, j'ai voulu apprendre sur les finances personnelles. Et notamment, il avait fait un livre qui s'appelle « I will teach you how to be rich », donc « Je vais t'apprendre à devenir riche ». Et c'est un peu apprendre c'est quoi les automatismes des gens qui ont de l'argent, c'est quoi leur état d'esprit, ce genre de choses-là, quoi, les habitudes financières à prendre, les erreurs à éviter, etc. Et comme j'avais déjà lu plusieurs bouquins, que j'avais déjà un peu creusé le sujet, j'avais pas trouvé le livre très pertinent d'où j'en étais. Voilà, j'avais pas spécialement accroché, parce que ça me semblait assez basique, parce que j'avais déjà lu et appris tout ça ailleurs. Du coup, j'avais pas trop creusé de plus de ce qu'il propose ce monsieur. Et l'autre jour, je suis tombé par hasard sur une interview qui proposait où il parlait de finances et de couple. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est plus intéressant. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas réécouté des interviews, etc., sur de ce qu'il fait. Parce que, voilà, il est assez populaire, on va dire, aux États-Unis. Hein. Il passe régulièrement sur des podcasts que je suis. Sur ce genre de. Enfin, je vois son nom passer régulièrement sur YouTube, notamment. Donc j'ai été curieux et j'ai été agréablement surpris de choses qu'il a à dire sur le couple. J'ai trouvé ça plutôt très intéressant, parce qu'il a des outils aussi qui sont pratiques, des choses qui sont assez cool. Et de ce que j'ai compris, il a un livre qui sort en fin d'année pour un peu expliquer ces concepts-là un peu plus en profondeur. Voilà, si t'es peut-être les finances, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi personnellement, dans ton couple, tu peux aller voir ce qu'il fait. Hein. J'ai pas de lien d'affilié, je fais pas sa pub pour une raison, enfin juste parce que je trouve que c'est intéressant. Je connais pas la personne, je fais pas ça pour. J'ai pas un quelconque intérêt à parler de ça ou de parler de son travail à lui, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce qu'on va voir ensemble, je t'ai pris 4 outils aujourd'hui et tu vas voir qu'ils vont bien ensemble. Que j'ai trouvé ça assez cool comme manière de voir les choses et de parler d'argent. C'est un peu différent de ce que j'ai amené les autres fois. C'est un peu différent des autres personnes que j'écoute qui parlent d'argent sur le couple ou que je lis. C'est des choses qui sont un peu c'est un angle un point de vue un peu différent. Donc je trouve ça intéressant. C'est assez complémentaire. Moi, ça m'a fait réfléchir sur 2-3 choses. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que je t'en parle, comme je te disais. Peut-être un petit mot en disant que voilà, c'est pas des conseils financiers, je suis pas habilité à en donner. Je te partage notamment ce que Rami Chetty il écrit dans son livre, parce que son livre n'est pas sorti, mais ce qu'il parle dans ses interviews, qu'il parle de son futur livre, et aussi peut-être un peu de mon expérience personnelle, de ma curiosité sur le sujet depuis, on va dire, 10 ans maintenant. Et sans plus attendre, mais on va voir ces 4 clés, on va voir ces 4 outils, on va voir ces 4 cartes de lecture que j'ai envie de te proposer. Moi, j'ai regardé l'interview de la chaîne qui s'appelle Diary of a CEO. Et c'était une interview peut-être maintenant qu'à 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc si tu l'as sur Spotify, tu l'as sur YouTube, tu l'as partout, c'est... Voilà, c'est une interview long format en général qui dure entre 1 heure et 2h30, 3 heures selon les invités. Je crois que c'est 1h30 cette interview-là ou 2 heures. C'est en anglais, hein, faut comprendre l'anglais. Et c'est assez intéressant. Donc si tu comprends l'anglais, je t'invite peut-être à aller voir l'interview, à trouver une interview de Rami Chetty, une récente, qui parle de son futur bouquin. Et tu verras qu'il y a peut-être d'autres choses qu'il va partager ailleurs qui sont intéressantes aussi ou qui va expliquer ces choses qu'on va voir ensemble, peut-être mieux que moi. J'ai fait de mon mieux hein, pour te les présenter dans un ordre qui fait du sens pour moi, que je trouve intéressant. En fait, parce qu'il a parlé de plein d'autres choses. Donc là, on parle. J'ai retiré, entre guillemets, de l'interview, j'ai extrait quatre choses. Parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble quand on les met bout à bout. Donc le premier outil, la première chose que je voulais te parler, c'est. Il donne une sorte de contexte. Il conseille pour les gens qui sont, on va dire, dans un couple sérieux, d'avoir des finances communes. Donc lui, sa manière de voir les choses à ce niveau-là, c'est d'avoir un compte joint sur lequel les salaires vont arriver. Donc par exemple, tu es en couple, tu es marié, etc. Il y a un compte joint sur lequel les salaires, etc. arrivent. Et de ce compte joint, alors, je vais détailler plein de choses un peu plus tard. Donc là, je vais faire assez simple. Hein. Mais de ce compte joint, il y a toutes les dépenses communes qui vont partir. Donc le loyer ou le prêt, si tu as acheté ta maison, une assurance, enfin les assurances, les voitures, les factures, la nourriture, tous les trucs que vous dépensez à deux pour les enfants par exemple, les choses que les voyages, les hobbies, les sorties que vous faites à deux, etc. Tout ça, l'argent arrive sur le compte commun, tout ça, ça sort. Et ensuite, on va faire d'autres choses avec l'argent que je te partageais dans le deuxième outil. Mais du coup, pour ça, il va falloir que chacun ait aussi un compte personnel. Il y a des couples qui ont que des comptes personnels, pas de compte joint, et des couples qui n'ont qu'un compte joint, pas de compte personnel. Lui, il conseille les deux, mais l'argent gagné et on va dire ce qui appartient au couple, du coup, parce qu'on parle de couple sérieux, on parle de personnes engagées, on parle de gens qui vivent ensemble, qui veulent faire leur vie ensemble, donc c'est la ressource du foyer. Donc cette ressource du foyer, elle est mise au service du couple, du foyer. Les deux salaires, ou enfin, voilà, selon le type de job que vous avez, etc., ça arrive sur le compte du couple, et derrière, vous payez tout ce qui est commun, et on va voir un peu ensuite ce qu'on fait avec l'autre. Mais c'est la structure simple. Il conseille d'avoir un système simple, parce que lui, il voit pas mal de couples qui ont des systèmes bien plus compliqués que ça, qui sont souvent inefficaces, et qui vont rendre le sujet de l'argent, qui est tabou en France, qui est délicat à discuter dans le couple, encore plus compliqué, encore plus délicat, parce qu'on ajoute de la complexité. Donc le fait d'avoir un système simple, et on va voir aujourd'hui à quoi ça peut correspondre, et tu peux faire des petites variations, tu n'es pas obligé d'être strictement te coller à ce qu'il dit lui, moi tu verras que j'ai une petite variation aussi, que je vais te partager dans une seconde. Mais voilà, ça permet de comprendre un système simple, parce que moi quand j'ai commencé à être en couple, et qu'on a commencé à parler de l'argent, c'était difficile de savoir, ben, en fait c'est quoi qui est juste, comment on fait quoi. Comment on fait avec le commun, etc. Donc par exemple, moi dans mon cas à moi, avec ma compagne, on est tous les deux entrepreneurs. Elle est prof de yoga, moi je travaille pour des entrepreneurs, donc pour une prof de yoga, pour mon client principal. Et du coup, on est payé par différents clients, à différentes fréquences, pour des montants qui peuvent varier selon les cours de yoga, selon ce genre de trucs. Et du coup, en plus, comme on est en micro-entreprise, on a besoin d'avoir des comptes pro individuels. Donc moi, j'ai mon compte pro, elle a son compte pro à la banque. Et du coup, on ne peut pas faire ce système-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un compte pro individuel sur lequel on reçoit l'argent de nos micro-entreprises. On verse de l'argent, par exemple, sur le compte joint, donc qui va couvrir tout ce qui est commun. Donc notre prêt pour la maison, les assurances, les factures, les choses qu'on partage, quoi, les choses qu'on fait à deux. Et après, ben, on va parler du reste derrière, mais on a chacun nos comptes individuels, etc. Donc tu vois, parce qu'on est auto-entrepreneur, c'est pas simple pour nous d'avoir un compte joint sur lequel tout l'argent arrive, parce que derrière, on a nos comptes individuels, etc. à faire pour nos micro-entreprises, même si c'est des choses qui restent assez simples. On est un peu obligé de séparer ça, parce qu'on doit avoir un compte pro chacun de notre côté. Donc tu vois, selon ta situation, peut-être que c'est pas possible d'avoir un compte joint sur lequel tout arrive, mais si tu es salarié, si tu es paxé, marié, c'est probablement ce que tu fais, ce que tu as considéré, ça peut vraiment simplifier les choses. Et tu vas voir dans un instant avec le deuxième outil que les choses peuvent être assez simples une fois que tu as un peu réfléchi à comment ça fonctionne et que tu as un peu appris à répartir, partager ton argent. Donc voilà la première idée. La première idée, c'est un compte joint, les salaires arrivent dessus, on sort tout ce qui est à sortir du compte joint pour le couple, pour la famille, pour tout ça. Et après, avec le reste de l'argent, on va voir dans une seconde. Mais on a des comptes individuels sur lesquels on va mettre de l'argent plus tard. Et je vais t'en parler dans une seconde. Donc l'outil numéro 2, c'est savoir comment répartir l'argent. Donc c'est moi quelque chose que j'ai appris à faire il y a longtemps, qui m'a vraiment aidé à me rendre compte de... Bah, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent et puis on paye les trucs, on dépense. On ne sait pas si on... À vue de nez, peut-être qu'on sait qu'on a 200 balles par mois ou 500 balles par mois ou 5000 balles par mois, hein, selon ce que tu gagnes, avec lequel tu peux jouer, mais t'es pas très clair, en fait. C'est des choses qui sont un peu au feeling, comme ça, tu regardes ton compte, ah ben, je peux me permettre un peu plus, etc. Lui, il conseille quand même, et moi, c'est mon conseil aussi, enfin, c'est mon expérience aussi, et tous les bouquins que j'ai lus sur les finances personnelles, sur les finances du couple, c'est savoir, enfin, il faut mettre un peu de conscience, quoi, sur tes chiffres, sur ce que tu as, sur ce que tu reçois, sur ce que tu dépenses, où l'argent y part. C'est, voilà, si tu veux gérer ton argent, il faut regarder ce qui se passe, quoi. Tu peux pas juste fermer les yeux et espérer que ça se passe au mieux, hein. Donc voilà, un truc qui me vient, qui est un peu hors podcast, mais qui me paraît important de dire, on est dans le cadre du couple, on est dans le cadre de la famille, ce qui dit, alors c'est un peu différent en France, on n'a pas nécessairement la même rapport aux cartes de crédit, mais lui, s'il se rend compte dans ses clients, 100% des gens qui ne savent pas dire non à leurs enfants, ils ont des problèmes d'argent aux États-Unis. 100% de ses clients. Alors ce n'est pas des statistiques nationales, c'est ses clients à lui, les gens qui viennent le voir, qui ont des problèmes de dette, etc. Si 100% de leurs clients qui ont des problèmes d'argent, un des problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire non à leurs enfants. Des fois, il y a du jeu, des fois, il y a de l'addiction, des fois, il y a d'autres choses, mais notamment ça. Donc peut-être, voilà, comme on est en train de parler de répartition d'argent, de comment faire, de couple, éventuellement de parentalité, si tu as des enfants, voilà, peut-être une petite parenthèse que je fais là, parce que ça fait plusieurs fois que ça me vient depuis qu'on a commencé ce podcast, donc je voulais le poser, je vais fermer la parenthèse pour revenir à comment répartir l'argent, comment faire voilà, vous mettez deux salaires sur un compte joint. Comment on fait à partir de là? Et là, je vais te donner à peu près des pourcentages, une sorte de guide, on va dire, pour savoir quoi faire, dans quelle proportion utiliser pour assurer ton train de vie, pour payer, pour investir, pour épargner, pour dépenser pour le plaisir, etc. Ce genre de choses. Mais ça dépend aussi un peu de ta situation. Et dans la situation économique dans laquelle on est, c'est quand même pas très brillant. C'est possible que les années à venir soient pas très brillantes. C'est possible que ce soit un peu compliqué. Donc si c'est pas possible aujourd'hui, c'est un objectif qui est intéressant à avoir. Moi, une des premières choses que j'ai appris dans les finances personnelles, c'est d'avoir 6 à 12 mois d'argent de côté de mon coût de vie aujourd'hui. Donc si par exemple ma vie, elle me coûte 2000 euros par mois, bah, d'avoir entre 6 mois, ce serait 12 000. Et 12 mois, ce sera 24 000 d'argent cash sur un compte, un livret A ou quelque part, où c'est de l'argent, où si demain je perds mon travail, si demain j'ai un problème de vie, ben, je suis pas dans la merde pendant 6 à 12 mois, quoi. Et c'est selon, voilà, si tu es employé en CDI, que tu es dur à virer, 6 mois, ça suffit peut-être, c'est parce que tu auras le droit du chômage. Si tu es auto-entrepreneur, que tu n'as pas le droit du chômage, que ton travail, il dépend d'un ou deux clients, et que voilà, et que tu n'as pas beaucoup, peut-être 12 mois, c'est peut-être bien, en fait, parce que si jamais il t'arrive quelque chose, ben, tu vas pas avoir d'aide autant que possible. Donc tu as des petites choses comme ça. Donc pareil, ça peut être des choses qui peuvent faire du bien, que tu trouveras quand tu vas quand tu fais des recherches sur les finances personnelles, des petits conseils que tu vas trouver, que je dépose là et que moi m'ont amené de la sérénité et de la paix. Mais pour revenir donc à cette clé numéro 2, donc à ce répartition entre guillemets de ces 100% que vous avez. Alors c'est peut-être pas 50-50, hein. Il y a peut-être un qui gagne plus que l'autre, donc il y a peut-être un qui amène 30% du capital et l'autre 70% du capital, peut-être que c'est 40-60, peut-être que c'est 55-45, peut-être que c'est 10-90. Il y en a un qui a une boîte et qui gagne énormément d'argent et l'autre qui est juste salarié classique, on va dire, qui fait ses 2000, 2005, 3000 par mois et c'est tout. Et l'autre, voilà, soit il est cadre, soit il est PDG, soit je sais pas si il a sa boîte, il gagne beaucoup, donc il peut y avoir des variations. Mais quoi qu'il en soit, une fois que c'est sur ce compte joint, lui, sa recommandation, c'est d'avoir un coût de la vie, les coûts fixes de ta vie qui sont à peu près 50-60% de ce que tu gagnes. Donc c'est ton loyer, c'est ton remboursement de prêt, c'est ta voiture, tes factures, les assurances, les prêts à la conso, ce genre de choses. Donc tout ce qui part du compte joint automatiquement, comme je te disais en début de mois ou dès que c'est là, ça doit correspondre à peu près à 50-60% de ce que tu gagnes. Si c'est 30 ou 40%, ça veut dire que tu gagnes très bien ta vie, ou que voilà, que t'es pas très dépensier, que peut-être tu as un petit appart alors que tu pourrais te permettre un peu plus et ça te va très bien, c'est pas un problème en soi. Si par contre ça te coûte 70-80% de ce que tu gagnes, ces choses-là, bah, tu verras que tu n'auras pas grand-chose d'autre et tu vas être un peu, un esclave, c'est un grand mot, mais tu vas être un peu bloqué dans tes finances, tu n'auras pas trop de marge de manœuvre pour faire d'autres choses que juste payer tes trucs. Alors je comprends que si tu es en début de carrière, si tu as un petit boulot, si tu as eu des pépins dans la vie ou quoi, c'est peut-être où t'en es. C'est pour ça que je te disais, si c'est pas possible aujourd'hui, ben, à terme, ça peut être ton objectif. Et tu sais que idéalement, d'un point de vue finance personnelle, si ce que ça te coûte de vivre, encore une fois, loyer, assurance, voiture, prêt, etc., si c'est 50-60%, tu gères plutôt bien, t'es plutôt pas mal. Donc ça peut être intéressant de regarder combien tu gagnes et de compter, hein. Moi je fais ça tous les mois, j'ai un petit fichier Excel dans lequel je mets, bah voilà, j'ai mis tant pour le prêt de la maison, tant pour la voiture, tant pour les assurances, tant pour les trucs. Et ça me permet d'avoir une idée à l'année, par exemple, de savoir, je fais souvent une moyenne à l'année, combien en moyenne par mois j'ai dépensé dans cette catégorie-là. Et après, je peux faire un calcul de pourcentage assez facilement, de savoir combien ça représente voilà, par rapport à ce que j'ai gagné cette année-là. Et comme, voilà, comme je suis en micro-entreprise, mon revenu il peut varier un peu. Et du coup, ajuster vis-à-vis de ça. Donc 50 à 60%, c'était coût fixe. Ensuite, 5 à 10%, ça va être ton investissement. Des investissements. Donc là, c'est plutôt pour préparer l'avenir, préparer ta retraite, laisser quelque chose à tes enfants. Donc, est-ce que ça va être, tu le mets dans un, c'est quoi en France, un PLE pour les plans logement, je sais pas quoi. Tu le mets en bourse, tu le mets en crypto, tu le mets en or, tu le mets en matière première. Là, possible qu'il faille se former un peu. Moi, c'est des choses que j'ai fait. Donc, encore une fois, je te donne pas de conseils en investissement. Mais il y a des formations en ligne, il y a des bouquins sur l'investissement, il y a des manières de faire. Donc, tu peux te renseigner sur c'est quoi un portefeuille de bourse ou de matière première, de bon, type bon père de famille, par exemple, type 4 saisons, all weather portfolio de Ray Dalio, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses à voir. Bien sûr, si tu prends des choses comme des cryptos, bah, comprends que c'est risqué, comprends que la régulation, elle est évolutive. En France, c'est très compliqué de cash out tes cryptos. Donc, si tu mets toutes tes épargnes en crypto, bah, le jour où tu veux les sortir ou le jour où tu en as besoin, selon combien tu as, selon combien tu as mis, bah, tu peux te faire allumer par les impôts l'année d'après. Donc, c'est délicat. Donc, à te renseigner un peu sur la législation selon le pays où tu es, selon dans quel pays tu es résident, et à te former éventuellement pour investir, parce que un des conseils que tu apprendras probablement si tu t'intéresses aux finances personnelles, c'est que l'intérêt d'un banquier en général, c'est de te vendre des produits sur lesquels lui fait de l'argent et pas nécessairement sur lesquels toi tu fais de l'argent. Donc si tu investis au travers des investissements classiques de ta banque, etc., est-ce que tu feras de l'argent sur le long terme? C'est moi, tous les mentors, tous les bouquins que j'ai lus sur le sujet disent souvent non, ou pas beaucoup, et la banque, elle te prend des commissions, elle te prend de l'argent. Donc il y a une éducation personnelle à faire qui est indispensable. Hein. Si tu veux investir, il y a un minimum, il n'y a pas besoin d'être un investisseur professionnel, il y a des choses que tu peux faire simplement, comme un portefeuille bon père de famille. Je t'invite à éventuellement te renseigner là-dessus. Le travail de Ray Dalio, c'est un Américain, mais qui a été aussi traduit, etc. Il y a des choses là-dessus, il y a des chaînes YouTube que tu peux aller voir pour apprendre à investir, et attention aux gens qui te promettent de devenir riche rapidement. Ça se passe rarement comme ça, il n'y a pas d'argent gratuit, c'est rarement le cas. Si, pour pas dire jamais, mais c'est sûrement arrivé à quelques personnes, mais c'était peut-être pas que de la stratégie et des compétences. Donc ça, c'est ton deuxième pôle, on va dire, où tu peux quoi faire ton argent. Donc 50-60% dans les coûts fixes, 5 à 10% dans l'investissement, 5 à 10% dans l'épargne. Donc là, on est plus dans le type livret A ou quelque chose de moins risqué comme des bons d'État. C'est de l'argent qui va être disponible aussi, qui est assez liquide selon ton investissement. Par exemple, si tu achètes un appartement, si ton investissement représente une somme d'argent que tu accumules jusqu'à acheter un appart que tu loues en saisonnier, c'est pas très liquide comme investissement. C'est-à-dire que le jour où tu as besoin de cet argent-là, bah, faut le revendre, ça peut prendre plusieurs mois, faut passer par un notaire. Alors que si c'est en bon d'état, alors que si c'est sur un livret A, tu risques d'avoir des rendements qui sont plus faibles, mais tu as de l'argent qui est dispo. Et donc cette épargne, il va pouvoir te servir pour tes enfants plus tard, pour un voyage, etc., pour constituer cette épargne de 6 à 12 mois de ton train de vie actuel, pour être tranquille. Et si jamais tu as un pépin de la vie, ben voilà, si jamais tu n'as pas de chance, tu as une panne de voiture, tu as un pépin de santé, tu perds ton emploi, ça ne veut pas dire que tu es complètement à l'abri de tout, mais ça veut dire que tu seras beaucoup plus confortable que quelqu'un qui a 1-2 mois, qui n'a rien de côté. Donc voilà, des choses qui sont importantes. Donc 5 à 10% d'épargne, 5 à 10% d'investissement, ce n'est pas la même chose. Et il reste une dernière catégorie qui fait, si tu as suivi un peu les pourcentages, ça fait entre 20 et 35%. Et là, c'est les dépenser comme tu veux. C'est vraiment libre. Donc si tu reprends son idée à Ramit Shetty des comptes joints, donc c'est-à-dire que tu as payé, tu as les deux salaires, on va dire que ça fait 10 000 euros. Tu as 5 000 à 6 000 euros qui sont partis en train de vie, donc tu vis bien. T'as 500 à 1000 euros qui sont partis en épargne, t'as 500 à 1000 euros qui sont partis en investissement, donc là il te reste 2000 à 3500 euros pour vivre pour deux. Et ça, c'est du guilt-free spending, il appelle ça. Donc c'est une liberté totale, c'est dépenser sans culpabilité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux aller le parier, tu peux aller en vacances, tu peux, voilà. Le seul, il y a une question à se poser, c'est comment on va répartir cet argent. Parce que c'est à ce moment-là que cet argent-là, il va partir sur les comptes individuels. Donc tout avant, donc les factures, les coûts fixes, les investissements, l'épargne, c'est parti du compte joint vers ces comptes-là. Lui, il conseille de manière automatique, c'est-à-dire que je ne sais pas si pour recevoir les salaires le 3 et le 5 du mois, ben, le 6 du mois, paf, Les loyers sont payés, les prêts sont payés, les investissements sont faits, l'épargne sont faits, tout est automatique. Enfin, ou tu le fais le 6 manuellement s'il y a besoin de le faire, mais voilà, c'est systématisé, on va dire. Et du coup, pareil, bah, le 6 du mois, tu te verses 20 à 35% et, sur les comptes individuels. Donc là, il y a deux options. Il y a le fameux moitié-moitié. C'est souvent lui ce qui va conseiller. Moi, c'est un peu mon expérience personnelle aussi. C'est quand on gagne des choses à peu près similaires, des salaires à peu près similaires. C'est simple. Et après, s'il y a un écart de revenus, considérez le prorata. Ça ne veut pas nécessairement dire parce que tu gagnes 90% des revenus, tu vas avoir 90% de cet argent qui a dépensé. Peut-être qu'on fera 70-30. Mais tu vois, si tu as quelqu'un qui gagne 1 million par mois et que l'autre, il gagne 10 000 par mois, ça peut amener des vraies complications en fait, dans les coûts, plus en expérience. Et moi, je l'ai un peu vécu dans une relation précédente où il y avait vraiment une grosse différence et on avait fait une sorte de prorata dans le sens où j'étais avec une compagne qui, à certains moments de sa vie, gagnait vraiment pas grand-chose. Donc, elle ne pouvait pas participer à fond au niveau des coûts à partager, etc. Donc, déjà là, il y avait déjà une partie de moi je payais plus qu'elle. On n'était pas sur du 50-50 du tout à ce niveau-là. Et derrière, on faisait pas au prorata de ce qu'elle gagnait, parce que sinon elle aurait eu des cacahuètes pour se faire plaisir, pour s'acheter des fringues, pour faire des trucs, et moi j'ai eu tout le reste de l'argent qu'on gagne à deux en fait. Donc on avait fait un prorata. Donc tu verras que dans ces moments là quand il y a une différence, le prorata il est souvent vécu comme plus juste, mais ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont là, mais non, c'est ce qu'on gagne, c'est pour le couple, c'est pour notre projet de vie, c'est pour notre foyer. 50-50, il n'y a pas de problème. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué, ça dépend un peu. Donc lui, il était team 50-50, et il s'est rendu compte avec les années, avec son succès, avec ce qu'il gagne, avec les gens qui l'accompagnent aussi, que c'est compliqué, plus team prorata, on va dire. Et moi, j'ai un petit penchant pour le prorata, pas nécessairement... voilà, si ma compagne, elle gagnait, ou si je gagnais 90% du revenu du foyer, bah, je ne laisserais pas 10% de cet argent-là à ma compagne. On ferait quelque chose d'autre, on ferait du 70-30, du 60-40, quelque chose, je sais pas, ça dépend des montants, de voir combien il reste selon ses hobbies à elle, selon mes... Enfin, tu vois, c'est difficile de donner des pourcentages sans personne derrière et sans situation concrète, mais voilà. Donc ça, c'est 20 à 35%. Donc, une fois que c'est sur ton compte perso, compte bancaire à toi, c'est vraiment, tu fais ce que tu veux, quoi. Bien sûr, tu peux économiser pour un voyage en amoureux, bien sûr, il y a des projets à deux qui peuvent être faits avec cet argent, mais c'est-à-dire que tu ne rends pas de compte à ton partenaire sur comment tu dépenses cet argent, et lui, il ne te rend pas de compte. Donc, si ton partenaire, il dépense dans des trucs qui ne te plaisent pas, ça, entre guillemets, ça ne te regarde pas. Après, si bien sûr, il dépense tout en conneries, en bière ou je ne sais pas quoi, et que vous vouliez partir en vacances, bon... Libre à toi de décider que ça n'aille pas, et puis de dire bon bah soit on en discute et on en parle, et on va voir ça dans le conseil suivant, de parler d'argent. Soit je change de personne, parce qu'en fait ils gaspillent leur argent, et même si cet argent là il est pour se faire plaisir, bah, peut-être que j'avais pas envie qu'on se fasse plaisir comme ça, peu importe, ça t'appartient. Mais voilà, cette idée de partager quand même 20 à 35%. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vivre aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui planifient le futur et qui vivent pas aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui qui planifient pas le futur. Donc lui, il conseille d'être entre les deux, et avec ces ratios là si ton coût de vie te coûte ton lifestyle, il te coûte 50 à 60%, si tu arrives à épargner 5 à 10%, si tu arrives à investir, quand même investir et épargner, si tu arrives à être à 10%, c'est mieux de mon expérience, hein. Si tu investis 5%, à moins que tu gagnes des grosses sommes, tu vas pas aller très loin. Donc à terme, investir 10%, ça me paraît quand même bien, si tu veux créer quelque chose pour tes enfants, pour toi, pour ta retraite, pour acheter un appart, pour voilà, quelque chose comme ça. Quand même aller sur les on va dire sur les 35% d'argent libre à dépenser comme tu veux, et d'aller sur les 10% d'épargne, 10% d'investissement, et d'avoir un train de vie qui te coûte que 50%, ça me paraît bien. Je te le place aussi comme ça. Un autre conseil qui me vient, que moi j'ai entendu 1000 fois, c'est quand tu gagnes de l'argent, quand tu as une augmentation, quand tu as plus d'argent, en général, ce qu'il faut éviter, le piège, c'est d'augmenter son train de vie, parce que c'est très très dur de diminuer son train de vie. Son lifestyle, c'est très très dur de faire machine arrière. Si tu commences à gagner bien de l'argent, tu commences à voyager en première classe, machin, pour des gens, c'est impossible de retourner en économie, quoi. C'est plus possible. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer avec parcimonie, l'augmentation du train de vie. Parce que c'est très dur de faire machine arrière et ça peut coûter très cher. Donc c'est peut-être plus intéressant des fois d'investir, d'augmenter tes investissements, d'augmenter tes épargnes, pour te créer une vraie richesse, pour te créer une vraie situation financière solide, et plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera plus un problème d'augmenter ton train de vie parce que tu auras des revenus, tu auras des dividendes, parce que tu as investi dans certaines actions, parce que tu auras 2 ou 3 appartements qui te ramènent de l'argent tous les mois, et du coup, ton train de vie, tu vas pouvoir l'augmenter, et tu vas pouvoir être tranquille, et voilà, et profiter de la vie. Donc ça, c'est un peu quelque chose à garder en tête. Donc la troisième chose qu'il conseille, lui, c'est cette idée de parler d'argent, comme je te disais. Et parler d'argent, ça implique de définir un moment. Donc moi, des fois, ce que je t'amène comme idée, c'est ça, ce que j'appelle un conseil de couple. Donc c'est une réunion qu'on peut faire de manière hebdomadaire, tous les 15 jours, de temps en temps, où on va parler des choses importantes. Donc ça peut être faire un point sur la situation, enfin sur le couple, ça peut être un point sur l'éducation des enfants, sur les business si on est entrepreneur, sur les finances, comme on en parle aujourd'hui, sur plein d'autres choses, mais c'est vraiment un moment où, voilà, on prend 1 heure, on prend 2 heures. Moi, j'aimais bien faire ça des fois avec mon ex-épouse, on allait dans un café, avec ma compagne actuelle, on aime bien faire ça en allant marcher souvent quand on va en randonnée. Comme ça, sur des randos où on est un peu à plat, on est en Haute-Savoie, donc des fois ça m'entraide, c'est dur de parler à la montée. Mais sur des petites randos où il n'y a pas trop de monde, où tu peux être libre de parler de choses perso, voilà, donc trouver ta manière à toi de le faire, que ce soit à la maison, cosy dans le canap, au café, en rando, ou en marche, en balade, ou voilà, au ski, j'en sais rien, à la plage, en sirotant une noix de coco. Mais trouver un espace dans lequel tu te sens à l'aise d'avoir cette réunion et là de parler d'argent. Donc, bien sûr. Là, lui, il conseille ça de faire mensuellement. Il y a un truc qui est super important dans ce qu'il conseille, je le rejoins là-dessus, c'est notamment pour célébrer les victoires, notamment pour se faire du bien, entre guillemets, vis-à-vis de l'argent, quoi. Parce que l'argent, ça peut être un sujet qui est lourd, sujet qui est tabou en France, ça peut être compliqué, il y a des conversations qui ne sont pas toujours agréables, etc. Des fois, on est dans le jugement de ce que fait l'autre, de sa manière de dépenser de l'argent, son rapport à l'argent, et on va voir dans le quatrième outil un peu, on va essayer de comprendre l'autre un peu plus grâce à cet outil-là. Donc c'est des choses qui sont vite délicates, vite émotionnelles. Donc là, l'idée, c'est de parler aussi des choses positives, quoi. Ouais, est-ce qu'on a réussi à épargner? Ouais, on a mis 10%. Ce mois-ci, on va mettre 15%, ou ce mois-ci, on va mettre 7%, mais on va faire un beau cadeau aux enfants parce qu'on a bien géré cette année. Du coup, on va faire plaisir aux enfants, on va leur faire un beau cadeau pour Noël, ou on a bien réussi à économiser toute l'année. Du coup, ce mois-ci, soit on remet 10%, et en plus, comme on avait un peu de marge, on va se payer des vacances. Enfin, tu vois, vraiment, regardez ce qui se passe financièrement, individuellement, et dans le couple. Et en parler, et voilà, et parler des victoires, parler des petites choses qui vont bien. Ça peut paraître anodin, hein, si ça fait des années que tu économises et que tout va bien, que tu es bien financièrement. Et en même temps, bah, si tu es un couple qui a galéré pendant longtemps et que tu commences à pouvoir épargner, tu commences à pouvoir investir, tu es excité de faire tes premiers investissements, tu as lu tes bouquins, tu as payé une formation, tu as fait un truc, tu as suivi un cours du soir sur la bourse ou sur quelque chose, et tu es là, ouais, c'est la première fois qu'on fait ça, quoi, c'est cool. Moi, les premières fois, c'était vraiment excitant, quoi, de gérer mes investissements, de gérer mes trucs. Et je gère pas des millions, hein, je ne suis pas quelqu'un qui croule sur l'argent, donc c'est des petites sommes, c'est des petites choses, mais en même temps, bah, voilà, ça grossit petit à petit. De temps en temps, on fait des erreurs, on perd un peu d'argent. La majorité, enfin, le reste du temps, j'essaie entre guillemets, de faire des investissements intelligents. Et du coup, bah, voilà, quand ça rapporte, c'est bien. Donc de suivre toutes ces choses-là, d'en parler dans le couple. Et de voir où on en est avec un objectif commun, de cette liberté, de cette aisance financière que ça peut apporter aussi d'être à deux. Hein. Des fois, c'est plus facile d'avoir une aisance financière à deux. Alors, bien sûr, s'il y a des enfants, bien sûr, s'il y a d'autres choses, des fois, ça augmente un peu la charge aussi, mais ça peut être une belle énergie que ça amène le deux, le couple, la famille, pour se dire, bon, on va se créer une indépendance financière, on va se créer une situation financière qui est vraiment bien. Comment on veut dépenser l'argent? Ça peut être aussi des discussions que tu abordes, hein, dans cette réunion. Comment on veut dépenser l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de nos 20 à 30%? Bien sûr, il y a des trucs que moi je veux faire de mon côté, qui me tiennent à cœur. Moi, c'est les vêtements, toi, c'est les sorties, je sais pas quoi. Mais comment on peut se faire plaisir avec ça, quoi? Comment on peut vivre pleinement notre vie d'aujourd'hui grâce à l'argent qu'on gagne et grâce à ces 20 à 35% qu'on peut dépenser librement? Donc ça, c'est le troisième outil. Donc, avoir une réunion, parler d'argent sous une forme d'une réunion mensuelle. Et après, un peu à toi de voir ce que tu veux mettre dedans. Je t'ai donné quelques bases, quelque chose à considérer, mais à ajuster selon ce qui est important pour toi. Donc enfin, la dernière carte de lecture que je voulais t'amener, qui peut être considérée comme un outil, mais peut-être plus une carte de lecture, c'est un peu comprendre les différents profils autour de l'argent, on va dire. Est-ce que c'est une vraie cause de séparation à l'argent, ou s'il y a séparation, et qu'il n'y avait pas de problème d'argent, c'est là où on se dit, bah merde, en fait, on s'est marié et on a fait beaucoup d'argent pendant qu'on était ensemble, donc par défaut c'est 50-50, mais ah ouais, bah c'est moi qui ai gagné plus qu'elle, ou moi qui ai gagné plus que lui, enfin, ça devient vraiment délicat l'argent lors de la séparation. Ça peut aller très bien pendant la relation, lors de la séparation, il y a plein de couples pour lesquels ça se termine mal à cause de l'argent, à cause de la maison, à cause de l'épargne, à cause de certaines choses. Et enfin, moi, je l'ai ressenti dans une relation, que ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a mené une tension de se dire, ben, on va se séparer. Tout simplement, lors de mon mariage, quand on s'est séparé, quand on a divorcé, là, ok, comment ça va se passer? Ça a pu être compliqué, on va dire. On a tous les deux fait en sorte que ça ne le soit pas, mais il suffit que d'un, et ça l'est. Et j'avais ce mentor, je t'en parle parfois là, qui était moine bouddhiste quand je l'ai rencontré, qui avait une vie de prêtre aussi catho, un peu les deux, qui a passé sa vie, il avait 60, plus de 60 ans cet homme, qui a passé sa vie à accompagner les gens dans le mariage à l'église ou dans la séparation, on va dire, au confessio quelque chose, j'ai oublié le nom, ou quand il accompagnait les gens un peu comme, pas une thérapie, pas de la psychologie, mais un peu comme une thérapie, quoi, il prenait des rendez-vous, il discutait avec les gens, donc il a passé sa vie à accompagner les couples dans le mariage et la séparation, et il disait que l'argent, dès que les gens se séparent, lui, il a vu que ça déchirait tellement de couples qu'il a accompagné, quoi. Donc, et là, ce qu'on va voir, donc c'est différentes personnalités autour de l'argent, ces quatre différentes personnalités, tu vas pouvoir comprendre un peu l'univers de l'autre et ton univers à toi, et te rendre compte que s'il y a des différents en termes de comment l'autre dépense, comment l'autre pense à l'argent, etc., c'est pas qu'il est idiot, qu'elle est idiote. C'est simplement qu'ils ont un rapport naturel, on va dire, à l'argent qui est différent. Et ça ne veut pas dire que tu peux apprendre à être autrement vis-à-vis de ton argent s'il y a une éducation qui peut se faire, etc. S'il y a des peurs, etc. S'il y a un travail qui peut se faire au niveau émotionnel. Donc il y a plein de choses à faire au niveau de l'argent, travail. Mais déjà, tu comprends où tu en es, où toi tu en es, où l'autre en est. Et ça permet de diffuser les tensions, de mieux comprendre la situation qu'il y a à la maison, en fait, que vous vivez au quotidien, de se dire, bah, ah ouais, d'accord, toi tu penses comme ça. J'avais jamais pensé que quelqu'un pouvait penser comme ça parce que moi je pense comme ça, mais ok, là on a une carte de lecture qui nous aide à mieux se comprendre. Donc quatre personnalités différentes avec l'argent. Le premier, c'est ce qu'il appelle les avoiders, donc c'est des gens qui vont éviter. Alors ceux qui disent bah non, moi je parle pas d'argent, ils sont assez cash, ou ceux qui détournent le sujet dès que ça arrive, vraiment c'est pas possible de parler d'argent avec eux, quoi. Il y a soit un refus catégorique, soit un évitement constant, et tu te rends compte que ils n'aiment pas parler d'argent, ça les met mal à l'aise, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent c'est si. Ramit Shetty, il va aussi loin de dire de ne pas se mettre en relation avec quelqu'un qui n'a pas la capacité de parler d'argent. Pour lui, c'est un red flag de fou, il dit c'est mort, ça sert à rien. Ça va causer des conflits dans une relation, parce que dans les gens qui conseillent, dans les gens qui viennent le voir, ça a posé des problèmes, etc. Donc c'est son point de vue à lui. Je sais pas si je serais aussi radical que ça, mais en effet, quelqu'un qui a une incapacité à parler de quelque chose d'aussi important que la sexualité, que l'argent, que la communication, que l'éducation des enfants, que la vie au quotidien, pour moi, c'est red flag, quoi. C'est red flag de, il y a quelque chose qui, enfin, c'est des choses, il faut être capable d'en parler, en fait. Et si t'es pas capable d'en parler, c'est pas grave. Va faire le travail qui est nécessaire. Regarde pourquoi. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des traumas? Quel est le travail qu'il y a à faire en thérapie corporelle ailleurs, mais pourquoi t'as pas cette capacité-là? Pourquoi c'est pas possible pour toi? Je comprends que ça va se foutre en travers dans tes relations et ça peut foutre en l'air tes relations. Donc ce qui est pas anodin. Donc il y a les gens qui vont être vraiment les évitants, les éviteurs, les avoiders. Ça c'est la première catégorie. La deuxième, c'est ceux qu'ils appellent les optimizers. Donc c'est ceux qui optimisent, on va dire. Donc c'est celui qui a un spreadsheet qui calcule tout. Quand tu lui parles d'argent, il va dire, oh mais attends, si on dépense ça, en fait, si on l'investit à 3%, dans 20 ans, ça te fait tel montant, etc. Donc c'est des gens qui vont chercher vraiment, qui ont une éducation de leurs finances personnelles qui est souvent très bonne, qui sont souvent investisseurs ou autres, ou crypto-traders, ou ce genre de choses. Des gens qui sont vraiment à l'aise avec l'argent, à l'aise avec toute la sphère autour de l'investissement, la gestion d'un patrimoine, etc. Et le risque de ces gens-là, c'est qu'à l'extrême, c'est des gens qui ne vivent pas vraiment le présent, en fait, qui pensent à optimiser l'argent pour le futur, mais qui ne vivent pas le présent. Lui, Ramit Shetty, dit qu'il est un peu comme ça, il est toujours avec son spreadsheet et son tableur, hein, en français, à tout optimiser, etc. Et puis sa femme, elle est là, et Coco, on va aller en vacances, on va boire des mojitos et on va s'amuser, en fait. On a de l'argent, on va en profiter. On te rappelle, on a 20-35% pour ça. Donc là, ces gens-là, il faut peut-être les ramener un peu à vivre maintenant. Profiter de maintenant, te rendre compte que tu as tes 20-35% que tu peux dépenser sans culpabilité librement pour te faire plaisir. Et ça veut dire quoi te faire plaisir? Des fois, c'est aussi ça, hein, c'est un évitement de qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, je sais pas, etc. Du coup, on remet le problème à plus tard en pensant qu'on est intelligent, qu'on prévoit l'avenir. C'est pour ça que sa méthode à lui, elle est vraiment s'occuper du présent, payer les coûts fixes, investir, épargner, se faire plaisir. Elle est pour quelqu'un qui est, on va dire, qui a des finances personnelles qui bien plus avancé que ça sur les finances personnelles, ça peut paraître très simple hein, comme approche. Et en même temps, c'est suffisant pour la majorité des gens. Ça suffit largement pour des gens qui s'intéressent peu à l'argent, peu aux finances. Et ce sera mieux que rien, en fait, probablement. Troisième catégorie, il y a les anxieux de l'argent. Donc ceux pour qui on va toujours manquer, il n'y aura jamais assez. Donc c'est souvent des gens avec qui on a dit que l'argent ne poussait pas sur les arbres. Ça me rappelle mon enfance et mon anxiété vis-à-vis de l'argent. ça me parle beaucoup ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, c'est des gens qui sont parfois chiants parce qu'ils se prennent la tête pour des questions à 3 euros. Donc, si tu es toujours à te prendre la tête pour des questions à 3 euros, de comment. Ça peut être intéressant des fois s'il y a besoin, en fait. Si vraiment il y a un besoin financier. Lui, son approche à Ramit Shetty, que moi je trouve intéressante aussi, hein, c'est d'apprendre à créer une situation de stabilité financière à travers des promotions, une carrière, le développement d'un business, des revenus complémentaires, des investissements, des choses comme ça, où il n'y a plus besoin de se poser ces questions à 3 euros en fait. Bien sûr, une question à 100 euros, à un peu plus, il va falloir se la poser, mais te prendre la tête au quotidien sur ah, mais attends, ce paquet de pâtes, il est moins cher, ce machin, ça peut être chiant pour la personne avec qui tu vis si ce n'est pas du tout leur manière, s'ils sont plutôt dans. Tu vois, soit ils n'aiment pas en parler, bah du coup tu vas leur parler tout le temps d'argent, ça va pas être confortable pour eux. Si c'est des optimisateurs, ils vont être dans un autre délire, ils vont penser à l'investir, etc. Donc peut-être que l'économiser aujourd'hui, ça va leur parler un peu, mais ils sont à un autre niveau, quoi. Donc ça peut être pénible. Moi je me reconnais un peu là-dedans, des fois. Hein. Je sais que des fois je suis chiant à ce niveau-là, je suis là à regarder les prix, à comparer, et des fois j'arrive pas à faire une décision pour des choses qui sont pas importantes au final. Si je me dis, bah, est-ce que demain c'est 7 euros, c'est 2 euros, c'est 10 euros? En fait, on s'en fout, on n'est pas à 10 euros près aujourd'hui. Peut-être que voilà, j'ai cette chance-là, on va dire, sans être. Voilà, mais on n'est pas. Si c'est de temps en temps, si c'est tous les jours, oui, non, c'est pas possible. Mais je veux dire, si. Donc il y a un monde dans lequel on n'a pas besoin d'être chiant vis-à-vis de ça, en fait. Et c'est important de garder ça en tête, entre guillemets, et de dire, bah, en fait, voilà, si j'ai 10 euros de plus ou de moins, à la fin du mois, ça ne va pas changer grand-chose, ou 3 euros, ou peu importe. Hein. Tu te rendras compte, en fait, moi, quand alors, j'ai pas eu la chance de vivre ça encore, mais quand tu t'écoutes des mentors, moi, j'écoutais des gens qui sont devenus riches, et ils avaient un peu cette règle, à un moment donné, ils ont mis cette règle dans leur vie, où en dessous d'un tel montant, ils se posent pas la question. Alors, moi, des gens que j'ai entendus, ils disaient, bah, au début, quand ils ont commencé à avoir un peu d'argent, c'était en dessous de 500 euros. Tant que ça coûte moins de 500 euros, ils se posent pas la question. Donc, déjà, tu vois, il faut quand même gagner plusieurs de. Peut-être. Pas loin de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par an par mois pour pas te poser ce genre de questions. Hein. Mais après, c'est des gens, ils sont arrivés à des stades où ils sont à 5 000 euros, ils se posent pas de questions. Là, tu te dis, putain, on vit pas dans le même monde, quoi. Moi, à 5 000 euros, je me pose 10 000 questions. Mais eux, ne passent, tu vois, pour éviter de rentrer dans ce truc de que l'argent soit anxiogène, en fait. C'est pour combattre ce côté anxiogène que peut avoir l'argent. Et certains, ça va être 1 euro, la limite, pour d'autres, ça va être 5, pour d'autres, ça va être 10, pour d'autres, ça va être 500, pour d'autres, ça va être 5 000, pour d'autres, ça va être 1 million. Peu importe où tu en es sur ton échelle, mais de se dire, à partir de ce montant-là, ça ne veut pas dire que je vais le dépenser 27 fois par jour et que je vais me ruiner, mais j'arrête de me prendre la tête, en fait. Quand je suis au supermarché et qu'il y a un truc qui me fait plaisir, bah, je l'achète, je me fais plaisir. Que je prenne une marque parce que je préfère que ça coûte 1 euro de plus, ça va me coûter 3, 4, 5, 10 euros par mois parce que j'en mange 10 boîtes. Bon, c'est pas. C'est pas ça qui va régler dans la majorité des cas si tu as des problèmes financiers, c'est pas ça qui va les régler. Ça va être d'autres choses en fait. Ça va être concentré sur gagner plus, ça va être d'autres sources de dépenses, des abonnements inutiles, des assurances inutiles, des choses comme ça qui peuvent te coûter de l'argent. Donc, ça, c'est les anxieux de l'argent. Et la quatrième catégorie, c'est les rêveurs. Donc, les rêveurs, moi, ça me rappelle peut-être mon papa, qui sait. Pour ceux qui dépensent l'argent avant de le gagner, entre guillemets, parce que bah, le prochain coup, ce sera le bon, il va être gros. Ce nouveau truc-là, ce nouvel business, ça va rapporter plein de thunes, ou ils vont avoir une promotion au boulot, et dans 5 ans, ils seront les rois du pétrole, ou il y a cet investissement-là qu'ils sont en train de faire, ça va faire x10, tu vois, ou x100 en crypto, to the moon, comme ils disent les rois de la crypto. Ça va faire x100, je vais être riche, etc. Donc c'est des gens qui sont vraiment dans le. Oui, qui sont pas les pieds sur terre, en fait, entre guillemets, vis-à-vis de l'argent. et qui vont le dépenser avant de l'avoir. Donc tu vois, si tu comprends un peu, si tu prends ces quatre profils, donc les gens qui évitent, les gens qui optimisent, les anxieux et les rêveurs, on n'a pas du tout la même relation à l'argent. Moi, je suis un peu entre optimiseur, mais je suis pas de ouf, mais je quand même un peu, et anxieux. Donc tu vois, je peux avoir un peu du mal à dépenser aujourd'hui, à me faire plaisir aujourd'hui, etc. Donc si je suis avec quelqu'un, quand je sorte avec un ami ou ma chérie qui est là, ben non, attends, on va se payer des vacances, on va se faire des trucs. Ça peut me ramener aussi à profiter d'aujourd'hui. Alors que moi, je vais amener, ben oui, on va aussi anticiper demain, on va penser à demain, on va penser à nos investissements, on va penser à notre épargne. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a un coup dur? Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a une guerre en Russie, il y a la guerre avec Israël et les pays autour, il y a d'autres pays qui s'en mêlent, il y a l'économie, on n'arrête pas d'imprimer de l'argent, d'imprimer de la monnaie. Avec les banques centrales, tu vois, et si tu t'intéresses un peu à l'économie, selon qui t'écoute, il y a des catastrophes, il y a des gens qui te disent que c'est la merde, des gens qui disent non, t'en fais pas, ça va continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, ça va agiter, on va dire, ton différent profil différemment. Si tu n'aimes pas en parler, bah, tu ne vas pas écouter ce genre de contenu. Si tu es anxieux, bah, tu sens qu'il y a de l'anxiété dans le monde dans lequel on est, économiquement ou militairement, bah, ça va peut-être renforcer ça. Si tu es optimisateur, bah, ça va sûrement influencer ça aussi. Si tu es rêveur, peut-être que, comme maintenant c'est avec l'intelligence artificielle, peut-être que tu vas rêver d'investissements qui vont faire x100 ou x1000 et que tu vas devenir riche. Ça peut permettre de te rendre compte de qui tu es et aussi de qui est ton partenaire. Et du coup, d'avoir de l'empathie pour l'autre, de comprendre l'autre. Et du coup, de réduire les conflits, de réduire les tensions. Et j'en reviens un peu à lier un peu tout le podcast d'aujourd'hui, ces quatre outils. Donc, tu comprends que si tu as un système qui est simple, comme on a vu avec le premier et le deuxième outil. Donc, tu as un compte joint, l'argent il arrive dessus, coût fixe, investissement, épargne, bam, ça sort. Il reste quelque chose. Peut-être vous prenez un peu de marge, vous ne le mettez pas à zéro ce compte, vous gardez un peu d'argent dessus, mais après, hop, 25 à 35% de ce qu'il y a dessus, on le partage en deux à 30, 70, 40, 60, 50, 50, 45, 55, peu importe, tu partages en deux selon le. Et voilà. Et là, c'est réglé, c'est simple. Il y a trois comptes au moins. Deux comptes individuels, un compte joint, c'est automatisé ou ça se fait rapidement en début de mois, on sait ce qui se passe. Et ensuite, t'as ta réunion mensuelle où tu vas parler de tout ça, on en est où avec nos investissements, on en est où avec nos épargnes, on en est où avec notre projet de maison, on voulait repayer en anticipé le prêt de la maison, on en est où, etc. Et t'as ces conversations, etc. Et là, tu te rends compte que c'est pas du tout la même chose, ton niveau, on va dire, auquel ton couple il opère autour de l'argent dans un couple, quand tu as ces choses-là qui sont en place, c'est pas du tout la même chose qu'un couple qui juste, bah ouais, ok, on a un compte joint, ça arrive dessus, puis on gère à la louche, et puis des fois on se prend la tête parce que lui il dépense trop pour ça. Enfin, moi j'ai vu plein de couples autour de moi où il y a un jugement de ce que l'autre dépense. Pourquoi l'autre dépense de l'argent comme ça? Quand tu es au clair sur ces 25-35%, ben, j'en fais ce que je veux, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Est-ce que je vais avoir des investissements à moi, par exemple, c'est aussi possible. Il y a les investissements qu'on fait à deux, entre guillemets, c'est 5 à 10%, mais ben, moi, en fait, j'ai besoin de 10% par mois pour me faire plaisir. Peut-être que je peux réfléchir, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir de monter à 15 ou 20, hein, comment ce serait possible. Et derrière, peut-être que en fait, ben, moi, je vais dépenser 20% et j'ai 15% de marge, je vais les investir à mon truc, et puis ça me fera ma retraite, ça me fera mon truc à moi, ça me fera un truc pour mes enfants. C'est aussi possible, tu vois, donc il y a cette liberté. Mais quand, tu vois, moi j'ai trouvé ça intéressant, vraiment, quand j'ai écouté ces 2 heures de podcast ou 1 heure et demie, j'ai pris plein de notes et je me suis dit, tiens, si je regarde juste ces quatre choses-là et que je les mets à la suite et qu'on se dit, ok, on fait système, ok, compte joint, compte individuel, on partage les pourcentages d'argent, etc., on comprend le profil de l'autre. Et on en parle régulièrement, waouh, ça change tout quoi. Vraiment, ça change tout. Et en fait, moi, c'est un peu ce que je fais dans ma vie personnelle, peut-être pas de manière aussi rigoureuse qu'un rendez-vous mensuel, etc. Mais voilà, c'est des choses. On fait un point mensuel, chacun de notre côté avec ma chérie, sur nos finances. On en parle de temps en temps, parce que voilà, avec le projet de maison qu'on a eu, ce genre de choses, bah, il faut prendre des décisions, quoi. Tu peux pas. Quand tu fais un devis, puis que c'est un devis à 1 000 euros ou un devis à 10 000 euros, c'est pas du tout la même chose. Et où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on isole la maison ou est-ce qu'on rembourse le prêt en anticipé? C'est quoi les conséquences de rembourser le prêt en anticipé? Combien on économise par mois? Ou combien en isolant on économise par mois? Plus on donne de la plus-value à la maison. Tu vois, il y a pas mal de conversations à avoir. Et ça permet, avec ce rendez-vous mensuel ou de temps en temps, quelques fois dans l'année au moins, d'avoir ces conversations-là et de moins être dans. Le non-dit, dans l'attente, dans des choses qui sont moins saines pour le coup, parce que bah, on projette ce que l'autre pense, on projette ce que l'autre veut faire et on n'est pas au clair en fait. Donc là, vraiment, ça amène de la clarté. Donc voilà ce que je voulais te partager. Te rappeler, bah oui, il sort un livre à la fin de l'année. Je n'ai pas le titre de mémoire. C'est vraiment au sujet de l'argent et du couple. Donc si jamais si jamais ça, tu vois, là, tu connais rien en finances personnelles, moi je t'invite à prendre. Il y a un livre de Tony Robbins que j'avais trouvé très intéressant. Money, Master of the Game. Je sais plus. C'est Tony Robbins. Enfin, c'est maîtriser le jeu de l'argent, entre guillemets, la traduction en française, plus ou moins. J'avais bien aimé Robert Kiyosaki aussi sur Père riche, père pauvre. C'était des piliers. Il y avait aussi ce Ramit Shetty qui était pour moi arrivé un peu trop tard parce que j'avais déjà appris ça ailleurs, mais qui est Je vais t'apprendre à devenir riche. I will teach you how to be rich. Et notamment tout le travail de Ray Dalio sur les investissements. Donc, c'est des gens sur l'investissement 4 saisons, toute saison, All Weather Portfolio, or 4 Season Portfolio. Donc, ça, c'est des choses que tu peux trouver qui viennent du monde anglophone, mais tu vas trouver des articles qui en parlent en France, des vidéos, etc., ou des interviews sous-titrées. Et il y aura son livre à lui qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc, si jamais ça. Voilà, j'ai pas encore une fois, c'est pas sponsorisé, il n'y a rien comme ça, c'est juste, je t'en parle parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et je sais que des fois, aller plus loin, c'est pour moi aller plus loin sur les finances personnelles, c'est essentiel. Tu ne peux pas te contenter d'un podcast qui t'en parle si tu connais rien. C'est des bonnes bases, c'est un bon début, il faut creuser, il faut se former si tu veux regarder le côté investissement. Moi, j'ai dépensé de l'argent en formation là-dedans pour apprendre à faire quelque chose de mon argent, en fait. Sinon, si tu n'apprends pas à le faire bien, tu risques juste de le perdre, en fait. Et c'est ton. Ça t'aura coûté de l'argent, alors que si tu t'es formé avant, peut-être que tu vas en perdre, parce que tu vas quand même faire des erreurs, parce que c'est pas si facile que ça. Et en même temps, tu as moins de chances de faire le con, entre guillemets, avec ton blé. Ou le blé de ton couple, le blé de ta famille, le blé, voilà, des choses importantes. Et encore, l'interview que j'avais écoutée, moi, c'était Derry of a CEO, podcast sur la plateforme de podcast de ton choix, ou YouTube. De Ramit Shetty. Donc voilà. Et je me demandais, qu'est-ce qui dans ces outils t'as trouvé utile? Qu'est-ce que tu penses que ton couple a le plus besoin? Donc n'hésite pas à venir en commentaire m'en parler. Et comme toujours, si tu veux soutenir l'émission, je t'invite à mettre un like, à t'abonner ou à mettre un commentaire et des notes. Et si tu veux aller plus loin dans ton chemin de couple, dans ce qui tient à cœur de mettre en place, pardon. Je t'invite à regarder ce que je propose en termes d'accompagnement. Donc, tu vas sur Graines de Cœur, il y a un .fr, il y a un onglet accompagnement. Tu verras un peu les modalités de comment je fonctionne avec ça. Il me reste quelques places. Donc, ce sera un plaisir d'accompagner des gens qui ont envie de transformer des choses dans leur couple, la communication, les problèmes d'argent, la sexualité, toutes les problématiques de couple que tu rencontres. En fait, l'accompagnement, il peut aider à ce niveau-là. Moi, mon envie première, c'est vraiment d'accompagner des gens qui ont une envie de changement, de transformation, d'amélioration dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans leur manière d'être à deux, dans leur manière d'être en couple, d'être à trois, si tu es en couple ou en polyamour ou peu importe. Mais vraiment que tu as envie, il y a un élan, quoi. Il y a un élan de faire mieux. C'est de soutenir ça et de vous accompagner là-dedans, t'accompagner là-dedans. Donc n'hésite pas à me contacter si c'est le cas. Je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!